Bonjour à tous. Bienvenue sur La Pause Déj, un podcast produit et animé par Boomerang. Tous les midis, on adore parler de tout et de rien. Et là, ce midi, on a décidé de mettre des micros et de vous partager nos discussions avec vous. On va parler d'un sujet bien précis aujourd'hui, c'est Pinterest. Et il y a une news qui est sortie récemment sur le fait qu'il se positionne un peu comme la plateforme du bien-être. Donc on va essayer de voir ensemble avec nos invités du jour, est-ce que c'est le cas et surtout qu'est-ce que ça veut dire en fait la plateforme du bien-être. Et justement, pour nous accompagner, on a un casting 8 étoiles. Voilà, j'ai mis 8 étoiles. On a avec nous une conceptrice rédactrice de génie. Bonjour Morgane.
Bonjour.
On a aussi deux chefs de projet. La première chef de projet qui travaille sur ce sujet Pinterest et qui est incroyablement douée. Bonjour Myriam.
Hello David.
Et une autre chef de projet qui n'est pas douée du tout, non, cette fois, qui est incroyablement douée aussi. Enchantée Agathe.
Enchantée.
Et donc aujourd'hui, je n'ai pas mon co-associé avec moi, je suis tout seul. Je suis donc David, le co-fondateur de Boomerang. Et tous ensemble, on espère que vous allez passer un bon moment dans ce podcast. Bon appétit.
Bon app.
Bon, est-ce que vous avez vu là récemment le partenariat qu'a fait Pinterest, qui est destiné aux créateurs? J'ai vu ça, ça vient de sortir. C'est avec une application qui s'appelle Headspace. Et c'est une application qui a pour objectif d'aider les gens qui l'utilisent à mieux gérer leur stress, mieux dormir, ou alors, je lis ce qui a été dit, parce que c'est quand même très important, rester positif, peu importe la situation. Moi, j'aimerais bien avoir ça chez moi assez souvent. C'est intéressant, ça, qu'une plateforme offre ça à des créateurs de contenu. C'est un truc qu'on voit pas habituellement.
Moi, honnêtement, oui, j'ai vu passer ça, parce qu'en fait, je suis abonnée au newsletter Pinterest. Et du coup, ils l'ont annoncé. Et honnêtement, ça m'a grave surpris parce que c'est un peu la première plateforme qui fait ce genre de partenariat avec une application qui vise le bien-être. Donc j'ai trouvé ça assez fort comme activation.
Moi, je trouve ça super bien parce que en plus, je trouve que maintenant, les gens qui travaillent sur les plateformes, c'est hyper dur de dissocier entre la vie privée et le travail. Donc ça peut être vite super stressant, surtout qu'il n'y a pas forcément des gens que bienveillants sur les autres réseaux sociaux. Du coup, ça montre que la plateforme, elle est à l'écoute, en fait, des demandes des créateurs.
Pour vous, les autres plateformes, aujourd'hui, c'est pas forcément des... Enfin, il y a ça? Vous avez déjà vu ce genre d'activation sur d'autres plateformes?
Moi, j'en ai pas vu.
Non plus.
Que je sache, j'en ai pas vu. Et aujourd'hui, je trouve que... après, c'est un avis personnel, mais surtout, je trouve que TikTok, ça devient très malsain. Et j'y pensais cette semaine, parce qu'en fait, quand je regarde mon fil d'actualité le soir avant d'aller me coucher, à chaque fois, je tombe sur des vidéos qui parlent des news d'actualité, de ce qui se passe dans le monde, mais toujours des infos assez négatives. Et je trouve que c'est un peu anxiogène. Et ça le devient de plus en plus. Donc,
Moi, je trouve que la première vraie question qui m'est venue quand j'ai vu cette info... C'est quoi Pinterest en vrai? Genre parce que, ok, on connaît tous Pinterest globalement, mais est-ce que quelqu'un là est capable, genre Morgane, de donner une définition de qu'est-ce que c'est Pinterest? Et si on connaît pas, moi je pense que ma mère connaît pas. Donc si tu devais t'adresser à ma maman, Morgane, qui écoute ce podcast, qu'est-ce que tu dirais?
Pinterest, c'est un, à la base, moteur de recherche d'images qui est créé pour inspirer la vie que tu as envie de mener et de construire. Donc tu vas retrouver sur Pinterest tous les outils, toutes des idées en fait que tu vas pouvoir réutiliser dans ta vie au quotidien pour transformer et pour construire ton quotidien justement selon un idéal que tu aimerais construire. Donc on retrouve beaucoup de contenu actionnable dans le sens où ça va être beaucoup des tutos, des do-it-yourself, des choses à reproduire chez soi. Donc voilà ce que c'est Pinterest.
Et c'est quoi comme typologie de contenu? C'est de l'écrit, de la photo, de la vidéo globalement?
C'est globalement que... Enfin, il y a deux typologies de contenu. Des photos statiques, donc qu'on appelle des épingles fixes, et des épingles idées qui, là, prend la forme, du coup, de vidéos. Avant, c'était découpé en plusieurs étapes pour suivre, justement, cette dimension de tuto où on fait quelque chose après quelque chose après quelque chose pour réaliser un objet global. Maintenant, c'est en une seule étape, un peu dans un format vidéo courte qu'on a l'habitude de voir sur d'autres plateformes. Mais du coup, pour revenir sur le partenariat,
ouais.
Moi, ça ne m'étonne pas de Pinterest, mais je trouve aussi la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils font ce partenariat avec la plateforme. Et en vrai, oui, c'est bien, c'est intelligent, on prend soin des créateurs. mais c'est aussi communicationnel. Et c'est une belle activation, puisque en fait, Pinterest veut se positionner justement comme la plateforme de la bienveillance. Il n'y a pas de haine. On prend soin de nos créateurs. Donc je trouve ça assez logique comme rapprochement. Après, moi, j'avoue que personnellement, je le vois vraiment comme une activation de
communication.
Com.
Oui, oui, en fait, bien sûr, bah, ça en fait partie, hein, forcément. Et justement, comment voyez-vous Pinterest aujourd'hui ? Comme ça, comme comment, si vous deviez définir le positionnement de la plateforme par rapport justement à d'autres réseaux sociaux, Myriam, tu disais TikTok, c'est un peu malveillant. Si on doit définir le positionnement, comment vous diriez aujourd'hui Pinterest, c'est...
Moi, je dirais que Pinterest, c'est un peu la safe place. C'est vraiment un endroit où tu sais que tu vas pas forcément voir des choses négatives. Au contraire, ça va être des choses qui vont t'inspirer, qui vont te donner des idées, que ce soit pour la déco, pour créer, je sais pas, un petit collier avec des perles, enfin des trucs assez créatifs. Donc pour moi, ouais, ce serait la safe place.
On parle de safe place, c'est un mot fort quand même. Vous avez pas l'impression que d'autres réseaux peuvent aussi l'être si on recherche un petit peu? Je fais près l'avocat du diable, mais demain, si j'ai envie que mon Instagram soit une safe place, je peux aussi l'avoir, non ?
Oui, carrément. Enfin, oui. Après, Instagram, ouais, ça reste la safe place, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de limites sur les autres réseaux. C'est-à-dire que tu as énormément de commentaires malveillants, énormément de... S'ils mettaient plus de limites, je trouve qu'on retrouverait aussi cette safe place ailleurs. Mais là, les ayant pas... C'est compliqué. Enfin, moi, j'ai du mal à avoir cette safe place sur les autres réseaux.
Bah, moi, je trouve que c'est surtout qu'une safe place, pour moi, c'est ce qui m'appartient, ce qui est, pour moi, la définition d'être bien. Et moi, personnellement, être bien, c'est pas montrer toute ma vie à tout le monde sur Instagram. Ça, c'est plus quelque chose de drôle, j'ai envie de montrer ce que j'ai fait, j'ai envie de voir ce que les gens ont fait. C'est plus ça. Alors que du coup, sur Pinterest, j'ai l'impression que ok, tu montres ce que tu fais, ce que tu as créé et tout, mais c'est plus dans l'idée de partager un tuto, partager une idée, partager comment j'ai réussi à bien décorer mon salon, parce que je me sens bien comme ça et que du coup mon salon devient ma safe place. Mais il n'y a pas cette répercussion de, même s'il y a beaucoup de vues, etc., il n'y a pas ce truc de est-ce qu'on va mettre des commentaires négatifs, est-ce que je vais avoir beaucoup de likes, c'est finalement pas le plus important sur Pinterest. Et c'est là, je trouve, où du coup, on se sent mieux.
Ouais, il n'y a pas de jugement.
Exactement.
Y a pas de...
Moi, c'est ce que je trouve. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup moins de jugement.
C'est intéressant.
Moi, j'avoue, je suis un peu plus mitigée.
Oh, vas-y, Morgane.
Allez.
Vas-y, Morgane, on veut savoir, on veut du sang.
Parce que je pense que, justement, c'est Pinterest qui... J'adore Pinterest, hein, y a pas de souci. J'adore travailler avec eux. J'y vais tous les jours.
On vous aime, Pinterest.
Mais du coup, justement, c'est Pinterest qui dit que... Enfin, c'est leur positionnement de ce truc de safe place... On est un endroit pour les créateurs comme pour les utilisateurs où il n'y a pas de haine, etc. Sauf qu'au final, on voit bien qu'il y a quand même cet esprit aussi de rendement, de produire du contenu pour être mis en avant sur la plateforme, etc. Et du coup, il y a une différence, je trouve, entre les mots qu'ils utilisent et ensuite, en fait, ce qui se passe vraiment quand on est créateur de contenu, qui est on doit toujours produire plus pour avoir ses vues, pour être mis en avant, pour que la plateforme nous apprécie.
Bah, moi, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça, dans le sens où quand on fait des ateliers avec les créateurs Pinterest, déjà, on ressent dans leur discours que déjà, ils sont un peu énervés contre les autres plateformes. Dans le sens où pousser à faire du contenu, je trouve ça plus... on le voit plus sur, par exemple, TikTok ou Instagram. Et eux, c'est le discours qu'ils ont quand ils parlent soit avec les clients de Pinterest, soit même avec nous, où ils disent bien que sur Pinterest, ils se sentent beaucoup plus libres. Et quand on regarde quel créateur la plateforme met en avant aujourd'hui quand ils collaborent avec nous, c'est pas forcément des gens qui créent beaucoup. C'est plus des gens qui ont du potentiel et qui peuvent se développer forcément et créer plus de contenu que ce qu'ils font de base. Mais c'est pas un... Ils sont pas, on sait que derrière, ils vont pas forcément être monétisés ou tu vois, c'est plus libre à votre création et faites comme vous le sentez. Et dans le discours des clientes, il n'y a jamais ce mot-là de dire « créez plus tout le temps, n'oubliez pas ». Bien sûr, elles le soulignent. Elles vont dire « oui, c'est forcément, si vous faites plus d'épingles d'idées, c'est mieux ». Mais ce n'est pas le premier mot qu'elles vont souligner quand elles parlent de la plateforme.
Ouais, mais justement, c'est parce que dans le discours... Enfin, justement, oui. Je trouve qu'il y a une différence entre leur discours qui, de toute façon, ne peut pas être dans la productivité, etc. Parce que, justement, on ne monétise pas, en fait, le contenu des créateurs. Donc on n'a rien à leur offrir si ce n'est un hébergement.
Enfin, c'est une mise en avant quand même.
Mise
une
en avant.
Et quand même voilà. Pas mal de choses.
Du coup, c'est sûr que, en fait, on est obligé. Enfin, je pense que Pinterest est obligé en tant que plateforme qui ne développe pas forcément de programme pour accompagner professionnellement, enfin, en tout cas monétairement, les créateurs, de développer un discours porté sur une autre dimension qui est du coup là. La safe place.
Et du coup, il y a plusieurs choses. Déjà, pour vous donner un peu des chiffres sur Pinterest, et une info que j'ai appris en préparant. Est-ce que déjà, vous savez d'où vient le mot Pinterest ?
Non.
Et ben voilà, c'est la fin du podcast, merci. C'est une contraction de pin, qui veut dire épingle, et interest, donc les intérêts. Donc c'est vraiment littéralement épingler mes intérêts. Pinterest, voilà, c'est là. Aujourd'hui, c'est 17 millions quand même d'utilisateurs en France. Je trouve que c'est énorme pour une plateforme qui est quand même pas si connue que ça, mais qui a énormément d'utilisateurs. Et je sais pas si vous saviez aussi, mais 60% de l'audience est féminine. Et pour autant, l'audience, enfin, la typologie de personnes qui sont les plus engagées sur la plateforme, c'est les hommes.
Ah ouais ?
Original comme chiffre.
Ah, j'aurais pas dit ça.
C'est-à-dire que les hommes, enfin, par rapport aux femmes, hein, il y a que deux.
Ouais.
Ou,
oui.
Non, d'autres genres, je retire ce que j'ai dit. Par rapport à tous les genres qui existent. C'est des hommes qui, en tout cas, selon les chiffres de la plateforme, sont les plus engagés, donc ceux qui s'engagent le plus.
Ça veut dire quoi, engagés ? Ça veut dire qu'ils
publient
plus,
Il y a plus d'interactions.
Je ne trouve pas le mot. Qui font plus d'interactions, j'imagine.
Qui interagissent.
C'est ça, avec les contenus qu'ils peuvent voir. Et justement, on se disait tout à l'heure des outils de plateforme que d'autres plateformes mettent en place. En fait, de plus en plus, aujourd'hui, les plateformes, elles mettent... Et d'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait sur le bien-être. De plus en plus, des plateformes, elles mettent ça en avant. Par exemple, Instagram, ils ont fait un outil qui s'appelle Take a Break. Et donc, c'est un outil qui dit, à la fois pour les utilisateurs et à la fois pour les créateurs de contenu, au bout d'un moment sur la plateforme, il y a une alerte qui sonne pour dire, maintenant, tu peux partir de la plateforme. Il faut que tu retournes à la vie réelle, entre guillemets. Je sais que tous ont ce programme-là. Donc, je rejoins un peu Morgane. Dans le fait qu'évidemment, c'est un positionnement fort de communication, mais aujourd'hui, est-ce que tous les réseaux ne sont pas un peu des safe places ? Même si j'entends ce que vous dites hein, aussi sur le fait que il y a des contraintes qui peuvent être peut-être différentes avec Pinterest, mais pour autant, les autres réseaux se positionnent aussi de plus en plus là-dessus. Et pour le rapport avec les créateurs, pour revenir à ça aussi, ça fait pas longtemps finalement que Pinterest il travaille avec des créateurs à proprement dit. Est-ce que vous savez à partir de quand ils ont commencé à avoir une relation avec ces créateurs-là ? Ça coïncide avec quoi ?
Moi je dirais il y a un an et demi à peu près.
Je pense que c'est plus ou moins avec l'éclosion de l'épingle idée, le nouveau format vidéo. Est-ce que vous sauriez m'expliquer ce que c'est qu'une épingle idée pour les gens qui découvrent Pinterest ? Maman, je sais que t'es là depuis le début. Donc... je fais comme s'il y avait d'autres personnes, mais c'est toi qui es.
Comme disait Morgane avant, en fait, une épingle idée, c'est une suite de vidéos, un peu comme des stories Instagram, mais toutes rassemblées en une seule vidéo. Et comme ça, il y a des coupures pour que la vidéo soit un peu moins pesante, entre guillemets. Et du coup, ça te permet aussi de l'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment comme le principe des stories qui se suivent, des stories Instagram, mais voilà, rassemblées en une seule vidéo et où tu peux passer les pages, en fait, où il y a plusieurs pages.
Il y a des... Je pose une question, des contraintes particulières pour faire une épingle idée, genre, je dis n'importe quoi, hein, il faut que ça dure une minute, il faut que ça ait tel format, ça existe ou genre juste on met une vidéo comme ça et ça fait une épingle idée ?
Non, pas forcément, après ça doit rester quand même dynamique, pas long, parce que...
Faut pas reprendre, des fois il y a des créateurs qui reprennent leurs vidéos TikTok et ils la mettent sur Pinterest, donc il y a le petit logo, donc forcément...
C'est... Le fameux fléau du logo,
voilà.
Du tag TikTok.
Ça bien évidemment, non. Mais non, pas forcément. Enfin,
ouais, c'est ça. Il n'y a pas de contraintes imposées, mais il y a des best practices à suivre. Enfin, comme sur toutes les plateformes. Du coup, par exemple, sur la première board, mettre un gros texte pour attirer l'œil, mettre une musique dynamique, couper les vidéos étape par étape si c'est un tutoriel, par exemple. Du coup, il n'y a pas de contraintes, mais il y a quand même.
Les tips.
Ouais, c'est ça. C'est quand même assez codifié comme format pour que ce soit bien réalisé et que ça performe.
Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est la vraie approche avec les créateurs de contenu. Parce que jusqu'à là, du coup, on disait que c'était, et Morgane l'a très bien dit tout à l'heure, surtout un moteur de recherche de photos. Mm-hmm. Et donc, quand on est créateur de contenu, il n'y avait pas de contenu exclusif à proprement dit. On mettait des photos qu'on a vues ailleurs, des inspirations, hein, c'était le but de la plateforme. Alors qu'aujourd'hui, on va demander aux créateurs d'aller créer du contenu exclusif à de la plateforme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Pinterest, je rejoins un peu Morgane, mais ils n'ont pas utilisé cette notion de bien-être pour finalement se différencier dans la relation qu'ils ont avec les créateurs de contenu, ou vous pensez vraiment que ça va plus loin que ça?
Moi, je pense. Je pense qu'en fait, c'est facile pour Pinterest de se positionner sur le bien-être parce que de toute façon, l'espace commentaire n'est pas déployé. Ce qui est toxique sur les autres réseaux, c'est l'espace commentaire et c'est les autres utilisateurs. En fait, c'est pas les plateformes elles-mêmes.
Bien sûr.
Les plateformes elles-mêmes, elles y peuvent rien. C'est les autres utilisateurs qui critiquent, qui apportent leur vision en commentaire parfois. Parfois, on n'en veut pas, mais on est là. Et du coup, sur Pinterest, il n'y a pas cette dimension réseau social encore, même s'ils essayent de le développer. Et du coup, il n'y a pas cette dimension de « on va commenter pour dire « ah, ton épinglidée est nulle ». Personne ne fait ça. Donc c'est facile de dire que c'est un espace safe, puisqu'il n'y a pas la pratique de discussion entre les utilisateurs, je pense.
Ok, et... Vous pensez que cette implémentation de la vidéo là, qu'ils ont fait il y a un an, ça a changé la plateforme? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que vous étiez des utilisatrices de la plateforme avant? Est-ce qu'on va se dire, bah, maintenant on vient sur Pinterest toujours pour cette liste d'inspiration et de contenu, ou on vient aussi comme sur un autre réseau social pour consommer du contenu un peu plus... enfin, qui dure un peu moins dans le temps et qui, du coup, rentre moins dans cette idée de bien-être? Est-ce que la vidéo, c'est pas aussi un peu... pas la mort du bien-être, je vais très loin dans mon positionnement, mais est-ce que ça va pas à l'encontre finalement de tout ce qu'on se dit sur le bien-être et le côté un peu préservé des autres réseaux?
Moi je trouve pas. Moi ça, par exemple, avant je consommais du coup que des photos pour m'inspirer, et maintenant ça me donne envie de rester plus longtemps, mais j'ai pas l'impression de moins être bien ou que les gens soient moins bien sur la plateforme parce qu'il y a la fonction de vidéo maintenant.
Et surtout, en fait, le contenu des vidéos de Pinterest change énormément des autres plateformes. Sur les autres plateformes, on va voir de l'humour, on va voir des personnes qui se confient, des personnes qui racontent leur vie, en fait, du contenu très lifestyle et autres. Hein, mais... Alors que sur Pinterest, encore une fois, c'est du contenu très actionnable. Donc ça va être des tutos, ça va être des conseils, ça va être des inspirations du style « trois tenues pour l'automne ».
Et ça, les créateurs, ils en sont conscients, parce que pour ceux qui ne savent pas forcément, on travaille beaucoup avec Pinterest et avec les créateurs de contenu. Est-ce qu'ils sont conscients que sur cette plateforme, il faut faire du contenu, comme Morgane le dit, actionnable? Ou est-ce que c'est la plateforme qui, pour l'instant, essaye de leur transmettre cette info? Et eux, pour l'instant, comme toi, tu l'as dit très bien, Aga, tout à l'heure, juste ils mettent du contenu comme ils font sur leurs autres réseaux et ils n'ont pas cette approche réfléchie comme là, on l'a fait?
Non, moi je pense qu'ils ont quand même cette approche réfléchie, c'est-à-dire qu'ils savent comment se positionne Pinterest, ils savent ce que la plateforme propose et du coup ils vont pas non plus proposer n'importe quoi comme ils pourraient proposer sur les autres réseaux, enfin n'importe quoi, des trucs...
Aléatoires
plus lifestyle. Là ça va être vraiment de la créativité, ça va être vraiment chercher à inspirer. Donc quand ils vont sur Pinterest et ils publient du contenu sur Pinterest, ils savent très bien quel genre de contenu ils vont poster.
Et une autre chose qu'on n'a pas abordée, mais qui est très intéressante, je pense, pour le fonctionnement justement de Pinterest, c'est que le contenu qu'on publie sur Pinterest en tant que créateur n'a pas de durée de vie. C'est pas instantané. Ça revient en fait tous les ans avec des moments clés, donc c'est fortement lié aux saisons, par exemple. Genre inspiration déco d'été, inspiration Noël, Halloween, etc. Du coup, ça met aussi les créateurs dans une dimension de devoir créer du contenu utile par rapport à un moment donné et du coup, produire du contenu réutilisable.
Ouais.
Ouais, je vois très
bien. Le contenu, il ne va jamais mourir. Ouais, c'est un peu...
J'ai versé une petite larme. Ouais, je pense qu'on pourrait mettre une musique. Tu peux le redire, on va le mettre avec une petite musique. Le contenu, il ne va jamais mourir. Hein.
Ouais.
Je vais totalement dénoter avec ma vanne d'il y a 30 secondes, mais je voulais aussi vous parler, je ne sais pas si vous aviez vu, mais pour montrer un peu que, même si Pinterest, on en parle beaucoup comme la plateforme du bien-être, et on est d'accord ou pas d'ailleurs, mais qu'il y a quand même des cas où c'est avéré que ce n'est pas tant que ça du bien-être. Très récemment, il y a une décision de justice qui a été rendue en Angleterre sur un fait divers malheureusement qui s'est passé en 2017. Une jeune Anglaise qui s'appelle Molly... qui s'était suicidée à 14 ans. Et en fait, les parents ont porté plainte en disant, bah, c'est dû à ce qu'elle a vu sur les réseaux, notamment Pinterest. C'était ciblé Pinterest et Instagram, mais Pinterest, exactement. Et les parents ont dit, mais en fait, elle a vu des contenus qui lui ont été poussés, qui étaient des contenus qui normalisaient le suicide, la dépression, l'automutilation. Et là, la justice anglaise, elle a rendu raison à cette famille. Donc, en vrai, est-ce que finalement, on redit un peu les mêmes choses, mais je trouve que c'est intéressant de se dire, oui, c'est un positionnement de communication qui est fort pour Pinterest et ils ont raison d'y aller, mais est-ce qu'à la fin, c'est pas aussi le vrai frein de tous les réseaux sociaux en règle générale, c'est-à-dire, Morgane a bien dit, tant qu'il y a d'autres utilisateurs qui peuvent mettre du contenu, même si c'est la plateforme du bien-être, il y a toujours quand même des choses qui vont être malaisantes ou graves, là, comme c'est le cas. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, c'est pas finalement un réseau social comme les autres Pinterest à la fin ?
En fait, ça rejoint un peu notre podcast sur le bien-être.
Complètement. Que je vous invite à écouter encore.
Moi. Mais du coup, c'est toujours la même question. Tous les réseaux sont pareils. C'est la question de la recommandation et de s'enfermer dans des cercles de recommandation exactement pareil. Pinterest, ils sont très forts là-dessus. Dès qu'on va sur une photo ou une épingle, on a tout de suite des recommandations hyper précises qui très vite nous enferment. En fait, il y a deux façons de voir. Moi, j'adore parce que justement, ça va
profondément. Oui, c'est hyper spécialisé. Mais...
Exactement. Mais du coup, on a la même chose sur TikTok ou maintenant aussi sur Instagram, où dès qu'on va s'attarder, bah, par exemple, sur des contenus qui romantisent la tristesse, qui romantisent la dépression, etc., bah, de plus en plus, on n'aura que ce genre de contenu. Donc, que ce soit Pinterest ou les autres plateformes, c'est vraiment l'algorithme, en fait.
Oui. Et donc, c'est dur d'être le réseau du bien-être. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est finalement toi et ton utilisation qui fait que ça va devenir le réseau du bien-être. Après, c'est très bien ce qu'ils font avec les créateurs de contenu et donner cette chance-là aux créateurs de contenu qui, effectivement, on en a parlé dans le podcast sur le bien-être, qui vivent, eux, des moments difficiles aussi et qui ont forcément des soucis psychologiques, enfin forcément non, mais qui peuvent avoir des soucis psychologiques liés à leur métier. Et c'est bien qu'ils mettent ça et qu'ils le sachent et qu'ils disent « Ok, oui, on sait que ça arrive et voilà ce qu'on vous donne. » Et ça,
je trouve
que c'est communication, mais c'est aussi un super pas vers les influenceurs qui ne sont pas obligés de faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, si on doit donner un petit peu de baume au cœur aux gens qui nous écoutent, j'arrête de parler de ma mère, il y a un influenceur, justement, bien-être, sur Pinterest, ou en tout cas, un influenceur good mood, si ce n'est pas bien-être, que vous pouvez conseiller aux gens qui peuvent aller voir sur Pinterest et prendre du plaisir, c'est un mot sympa ça, en allant le voir cette créatrice, que vous pouvez conseiller. Voilà, c'est le petit moment conseil. Et à la limite, si c'est pas un créateur de contenu, et peut-être moi je vais commencer par la mienne, puisque je parle depuis 10 minutes, donc autant finir. une petite routine bien-être. Moi par exemple, depuis peu, et alors ça va totalement à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire, je déconnecte des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le matin, par exemple, jusqu'au moment où j'arrive au bureau, donc de mon lever jusqu'au mon bureau, je ne regarde plus les réseaux sociaux et je me crée une bulle où je vais faire une méditation le matin. Alors, c'est 15 minutes, hein, je ne peux pas des heures entières, mais où je me déconnecte de tout ça et je me dis « Ok, j'arrive au bureau, j'ai l'esprit ouvert et léger ». Voilà, ça, c'est ma routine. Donc, si vous voulez, on fait un club de méditation, tous. Et à 8h le matin, on fait une méditation.
Après le club lecture.
Ah, j'adore.
moi, je te rejoins sur ça, parce qu'en plus, je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais sur l'iPhone, maintenant, tu peux mettre ton portable en mode...
Ça ne va pas déranger, enfin...
Ouais, repos ou un truc comme ça. Et en fait, moi, à chaque fois, à partir de 10h30, 11h, je le mets en mode repos. Comme ça, je ne reçois ni message, ni appel, rien. Jusqu'au lendemain matin, 8h, et ça me permet un peu de déconnecter. Et sinon, un autre conseil...
C'est plus si t'as un créateur, une créatrice, hein, que... Parce que si on dit tous de déconnecter des réseaux, dis donc que...
Ouais, c'est pas...
On va changer de métier.
Moi, je déconnecte pas du tout des réseaux sociaux.
Super.
Non, mais vraiment, moi, ça me met jamais dans le mal, entre guillemets. Et en plus, pour rejoindre, du coup, la plateforme Pinterest, moi, j'étais assez surprise de ce que tu disais sur la fille qui s'est suicidée.
Ah ouais, on va se battre.
Non, mais je comprends, je sais que c'est dur pour certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ça, je dis pas du tout que c'est faux. Je suis hyper surprise que ça soit sur Pinterest parce que du coup, moi, j'ai jamais retrouvé
de contenu négatif.
Je suis hyper surprise. Je pensais même pas que c'était possible. J'arrive même pas à voir quel type de photo ou de vidéo du coup ça peut être, alors que sur d'autres réseaux, bah, je m'imagine peut-être plus. Et du coup, moi, pour ce qui m'aide à être bien, déjà, moi, ça fait au moins 5 ans que j'ai plus aucune sonnerie. Mon téléphone, il vibre pas, il sonne pas. Je le regarde automatiquement.
Et t'es du plus coup, sujet ça... aux notifications, t'as raison, en vrai. Hein.
Enfin, mais ouais. Ça, c'est, ça m'a vraiment aidé. C'est hyper stressant d'avoir tout le temps quelque chose à côté de toi qui vibre, qui sonne. Et du coup, dans ma routine, donc ça, c'est supprimé direct.
Je vais venir te taper sur l'épaule, ça fait 3 secondes.
Mais je réponds toujours. Hein. Vraiment, ça, j'ai jamais... enfin, je réponds vraiment tout le temps. Parce
et
que...
du coup, ça te force pas à regarder plus ton téléphone?
Bah ouais.
Bah non, parce que moi, je le regarde naturellement de moi-même.
Toutes les 3 minutes?
Non, mais oui, non, mais je vais le poser pour certaines choses, mais au final, non, on en a besoin dans son quotidien. Et du coup, moi, ma routine, ça va être de quand je vais rentrer, bah, par exemple, du travail, faire un tour sur les réseaux et regarder des créateurs de contenu plus food. Moi, j'adore, j'aime trop quand je rentre chez moi. Ils font leurs petites recettes, je trouve ça me détend énormément. Et en vrai, il y en a vraiment beaucoup des créateurs de contenu, même sur Pinterest, qui font plein de petits trucs et astuces. Donc... moi, c'est ce que je fais, en tout cas.
Alors, la créatrice de contenu que je pourrais conseiller sur Pinterest, qui, moi, je trouve, fait du contenu qui m'intéresse, en tout cas, personnellement, en tant que Morgane, du coup.
Je pense que tu pourrais préférer moi.
C'est Inès Aki. Donc, c'est une créatrice qui travaille pas mal avec Pinterest aussi, qui propose plein de petits tutos do it yourself. Elle fait aussi de la mode, etc. Mais moi, c'est vraiment que pour le do it yourself. Parce que je trouve que, justement, peut-être qu'on ne l'a pas assez souligné, mais Pinterest, c'est vraiment la plateforme de la créativité qui va te pousser à faire des choses avec tes mains, qui va te pousser à avoir des idées pour embellir ce qu'il y a autour de toi, utiliser un objet pour en faire quelque chose d'autre, créer enfin des recettes, etc. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup... chez moi. Du coup, c'est le genre de contenu que je consomme. Du coup, Inès Aki, voilà.
C'est un joli mot en plus, parce que ça, je trouve que pendant tout le podcast, tu as dit activable, actionnable. Donc j'ai inventé un mot que tu as dit, actionnable. Et je trouve que c'est assez révélateur de ce que c'est aujourd'hui Pinterest. C'est du contenu qui te pousse à aller réaliser toi aussi, pas du contenu, mais des choses dans la vraie vie. Et finalement, c'est assez cool. Et effectivement, ça rejoint peut-être le bien-être de faire vivre, en fait. Juste... c'est ouais. Pas fou ce que je dis, ça veut rien dire.
Je sais pas si tu voulais finir, mais parce que là, ça m'a rappelé autre chose que je voulais dire à un moment.
Avec plaisir.
C'est que justement aussi ce positionnement bien-être, etc., c'est ok, d'accord. Sauf que c'est aussi une plateforme qui pousse pas mal à la consommation finalement et à l'augmentation de l'envie et de pulsion d'achat, puisque comme tous les contenus sont actionnables, par exemple si tu veux de l'inspiration pour tes outfits. Tout de suite, tu vas pouvoir avoir des liens pour acheter les petites mocassins que tu as vues sur la meuf trop belle sur ton Pinterest.
Et ça pousse à la surconsommation.
Exactement. Et du coup, aussi à la frustration.
Oui, clairement, oui, je vois très bien.
Donc, voilà.
En fait, c'est une bonne conclusion. Qu'est-ce que c'est Pinterest aujourd'hui ? C'est un réseau qui se positionne sur du bien-être et qui, quand même, fait pas mal de choses pour donner du bien-être à ses créateurs de contenu, mais aussi aux utilisateurs sur la plateforme, mais ça reste à pondérer parce que, comme tous les réseaux sociaux, il y a un aspect budgétaire et marketing derrière qui fait qu'effectivement, ils ont besoin de te driver vers de la consommation, ils ont besoin de monétiser leur contenu, ils ont besoin de plein de choses. Et en plus, un réseau social, par essence, il y a plein de gens. Et donc, il y a du bien, mais il y a aussi du moins bien parce que c'est l'essence de qui sont les gens. Donc ça permet au moins d'avoir un overview assez grand, je trouve, sur ce qu'est Pinterest. Donc merci beaucoup.
Merci.
Moi, j'avais juste une dernière
question.
Non,
Myriam, merci. Vas-y, Myriam.
Non, c'est peut-être bête, mais vous, si vous étiez créateur de contenu sur Pinterest, qu'est-ce que vous proposeriez sur votre...
En mode des tutos.
De l'ASMR.
Des tutos
de
quoi ?
Do it yourself,
c'est mon rêve,
des petits trucs.
Ok.
Ah, vraiment de l'ASMR ?
Ah oui, vraiment ?
De l'ASMR actionnable.
Tu veux pas nous faire un petit...
Non, je réserve ma première épingle idée.
Ok, et Agathe ?
Moi, ce que j'aime trop, c'est les gens qui montrent un peu, tu sais, les endroits où aller, ou pas forcément pour consommer. Mais
insolite.
Plus, pas forcément insolite, mais si t'as envie de faire une balade, les 3 lieux qu'il faut faire pour faire une balade.
Okay.
Et là, ça rappelle le bien-être aussi.
Ok.
Et toi, Myriam ?
Moi, je pense que ce serait très cliché, hein. Ce serait des idées d'outfit, je pense.
C'est très bien, hein. Voilà. Il en faut. Oui. Tu vas nous faire acheter des mocassins, merci. Oh,
ouais. Je vais vous faire consommer.
Et je voulais dire un dernier truc aussi sur les réseaux, parce qu'on parle beaucoup d'haine sur les réseaux, de choses comme ça. Sauf qu'en fait, je trouve que les réseaux, c'est un peu comme la vraie vie. Et du coup, bah, tu suis les gens que tu as envie de suivre ou tu les suis pas, comme dans la vraie vie, tu peux avoir des interactions.
Ne suivez pas les gens dans la vraie vie. Hein.
Non, mais tu Morgane peux avoir des dérape. Mauvaises interactions.
Suivez-les dans la rue, enfin...
Mais c'est à toi de faire ton choix, quoi. Enfin, tes choix. Et puis, bon, des fois, ça arrive quand même à toi. C'est chiant. Mais faut pas non plus.
Oui, moi, je suis d'accord.
Les raisons, c'est un miroir de la vraie vie, finalement.
Oui.
Ouais.
Oui.
Enfin, un miroir grossissant, alors.
Waouh. Waouh. Eh ben, écoutez, bon scrolling sur les réseaux. Et puis, à très vite pour le prochain podcast.
Merci beaucoup.
Merci.